بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من شفاعه الإسلام. الحمد لله. Nous reprenons ce soir les programmes sur les ahwal, les situations de l'au-delà. Après une longue interruption avec les vacances et toutes les circonstances, alhamdulillah, on reprend ce programme et on demande à Allah Rabbul Izza de nous donner istiqama, de pouvoir être ferme, être constant, une fois sur deux, inshallah. Avant la trêve, avant les vacances, on avait complété le chapitre sur les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyamah. On avait complété la quatrième catégorie de personnes, ce sont les gens qui se fréquentent et qui s'aiment pour Allah. Et à travers cette catégorie, on avait mis en avant l'importance de la sincérité, le ikhlas. La sincérité, c'est dans notre relation avec Allah, lorsqu'on adore Allah, lorsqu'on accomplit de bonnes actions. Mais la sincérité, c'est également dans notre relation avec les gens. Faire en sorte que les relations que nous allons construire avec notre prochain, ces relations-là soient basées sur l'amour pour Allah, la sincérité pour Allah. Ce n'est pas une relation par intérêt, ce n'est pas une relation qui va prendre fin non plus quand il n'y aura plus d'intérêt, ce ne sera pas une relation qui va perdurer à partir du moment où la personne nous apporte quelque chose, ni que si par exemple nous voit des manquements, des défauts sur la personne, on va s'éloigner d'elle immédiatement, là wallah. C'est vraiment cette muhabba pour Allah et c'est quelque chose de profond qu'on doit essayer, inshallah, d'appliquer dans notre vie. On avait vu les exemples de différents tabi'in, sahaba, bien sûr, les tabi'in, adba'i tabi'in, quelles étaient leur conception de l'amour pour Allah. Ça dépassait le simple fait de faire salam et de sourire. C'était venir en aide à son prochain, précéder la demande de son frère en islam lorsque nous voyons quelqu'un dans les difficultés, ne pas attendre, par exemple, que la personne manifeste son besoin, mais lui venir en aide le plus rapidement possible. C'est inviter les gens chez soi, donner à manger, parfois donner des cadeaux, être le plus agréable possible, c'est vraiment forger une relation de mahabba. C'est quelque chose qui est quasiment perdu dans notre société. Ce sont des valeurs qu'on ne retrouve malheureusement plus dans notre société où chaque personne est retranchée sur soi-même. Chacun se replie sur soi, sur sa vie, sur ses problèmes, son emploi du temps, son rythme de vie. Et en finalité, on a beau prétendre être dans une société où l'humanisme est vraiment la valeur la plus importante, mais en termes d'humanisme, Allah Musta'an, je pense qu'on a quasiment presque tout perdu. Et si nous voulons revenir vers les bases de muhabba, de la sincérité, des relations humaines, nous devons lire les textes concernant le chapitre que nous avons passé en revue il y a quelques mois. Alors, la cinquième catégorie de personnes qui sera sous l'ombre du trône d'Allah, Rabbul Izza, le jour de Qiyamah, c'est vraiment un exemple type, c'est vraiment l'exemple type de la personne qui va mettre en pratique une action qui fait partie des a'mal al-qulub, des actions du cœur. C'est une des trois catégories de sabr, de patience. Lorsqu'on parle de patience, sabr, quand on dit bah, faites sabr et tout, quand on dit à quelqu'un fais preuve de patience, en général on dit fais preuve de patience parce que la personne vit une difficulté. Et lorsqu'on dit inna Allah ma'as sabirin, immédiatement on comprend que c'est en rapport avec les difficultés, les épreuves, certes. Mais la patience face aux épreuves, c'est une des trois catégories de patience. En dehors de cette patience qui est la plus connue, il y a la patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. As-sabru ala at-ta'a. C'est faire en sorte que on reste ferme dans l'accomplissement des bonnes actions, même si parfois on éprouve quelques difficultés dans les bonnes œuvres, mais on essaie de rester ferme. On s'efforce de le faire. L'accomplissement de la prière de la nuit, par exemple, le tahajjud, ou alors les psaumes, les jeûnes, en plus, nafil, on essaie de rester ferme dans les bonnes œuvres. La troisième catégorie de patience, c'est as-sabru 'anil ma'siyah. Faire preuve de patience face au haram, face au péché, face au nafs, tout ce que le nafs essaie de nous inciter à faire en termes d'expression de notre. Ça peut être la sexualité, ça peut être en rapport avec l'appât du gain, le fait d'aimer les biens de ce monde. Ça peut être le désir de connaître des choses, les gens qui parlent beaucoup, qui aiment se renseigner, qui aiment parler sur les gens. Tout ça, c'est des pulsions. Et le fait de faire le saytara, de se maîtriser, ça c'est une des preuves, ça c'est une des catégories de sabr, de patience. Et justement, cette cinquième catégorie de personnes qui aura cet honneur d'être invitée
sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama. C'est une personne qui a su se maîtriser entièrement face au waswasa de Shaitan et face à son nafs. Parce qu'il y a deux éléments, il y a deux éléments qui nous invitent, qui nous poussent vers le péché. Il y a Iblis, alayhi la'natullah, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui donc insuffle dans les poitrines des gens, qui met l'envie de faire des péchés. Et puis il y a an-nafs. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa, sauf certaines personnes. La majorité des gens, le nafs, leur instinct les pousse vers le mal. Ça c'est quelque chose qui est inné, qui est dans l'homme. Et pourquoi est-ce que on peut vraiment dire que cette cinquième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui, mashallah, a vraiment mérité cette place au long du trône d'Allah Azza wa Jal, et Allah est le seul juge. Allah sait exactement pourquoi il lui accorde cet honneur, cette place. C'est parce que cette personne a su mettre de côté, a su dépasser les waswasa, les insufflations de Shaitan, mais il a su également dépasser son nafs. Et qu'est-ce qui pousse le nafs? Et qu'est-ce qui va orienter les insufflations de Shaitan? C'est la façon dont nous allons contrôler notre corps. C'est-à-dire, si on aura une faiblesse par rapport au regard, ben Shaitan va s'engouffrer dans cette faiblesse. Si j'ai un problème pour contrôler mon regard, ça peut être dans la rue, ça peut être devant un écran de télévision, ça peut être devant mon ordinateur ou devant mon portable, ça peut être également devant un livre, un magazine ou autre chose. Quand Shaitan a détecté la faiblesse de l'être humain par rapport au regard, Shaitan va travailler votre dossier. Il va travailler votre dossier, il va faire un devis, il va faire un appel d'offres, voir c'est qui les diables qui sont disponibles pour tenter Muhammad, Ishaq, Abdullah, via les péchés avec les yeux, et faire en sorte qu'il va s'engouffrer de ce péché. Ça veut dire quoi, s'engouffrer de le péché? Vous savez, il y a différentes catégories de pécheurs. On essaie de ne pas sortir du sujet. Il y a le pécheur occasionnel. Celui qui a fait un péché et qui comprend tout de suite. Ah ouais, enfin, il y a petit A. Celui qui fait le péché occasionnel, qui fait un petit péché une fois de temps, mais après il passe à autre chose. Il pense même pas que ce qu'il vient de faire est mal. Ça, c'est un gros problème parce qu'il ne demandera pas tawba. Il y a ensuite la personne qui accomplit le péché une fois de temps, de la même façon, mais cette personne va prendre conscience de la gravité de son acte, va comprendre c'est quoi le péché. Et la personne va immédiatement demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il y avait un frère qui nous avait posé une question dans une assemblée. Il avait dit que, il a vu que j'avais pris en exemple le fait de contrôler son regard. Et la personne n'était pas satisfaite de cet exemple de péché. Il m'a dit que oui, mais vous parlez de péché insignifiant. Parlez de péché plus grave. Parlez du shirk. Parlez du kufr. Parlez de la bid'a, des innovations. Je suis entièrement d'accord. Le shirk, le kufr, la bid'a, ce sont les trois péchés les plus lourds en conséquence, sans le moindre doute. Je dis, mais pour autant, quand on entend parler d'un péché qui nous paraît, c'est le verbe paraître, entre guillemets minime ou moins important, il faut en aucun cas déconsidérer le péché. Parce que le petit péché qui est répété de façon permanente peut être la cause de destruction de ce abi, de ce serviteur. Peut-être cette action qui va lui faire chuter aux yeux d'Allah, qu'Allah nous pardonne, nous protège. Ce péché qu'on considère comme insignifiant, entre guillemets, pas très important, pas lourd en conséquence, à force de le répéter, que ce péché deviendra un rituel. Et quand le péché devient un rituel, le cœur n'éprouve plus de haya, de nadam, de remords, de honte. Très bien, barakallahu fik. Le cœur n'éprouve plus de haya, de honte à désobéir à Allah délibérément, et le cœur n'éprouve plus de remords non plus à accomplir le péché. Quand on arrive à un stade où, quand j'arrive à un stade où je répète quotidiennement, régulièrement un péché, et que je ne ressens plus la gravité de ce péché, ça veut dire que je n'ai plus de honte et de gêne à faire ce péché, tout en sachant qu'Allah me voit. C'est-à-dire que j'ai déconsidéré la gravité du péché. Et deuxièmement, quand je répète ce péché, ça veut dire également que je n'ai pas de remords à l'accomplir. Et vous savez qu'une des conditions, tout le monde le sait, pour obtenir le tawba de la part d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle le tawba tun nasuha, le repentir sincère, une des conditions, c'est regretter le péché. Al-nadam. Tant qu'on ne regrette pas le péché qu'on a accompli, le tawba ne sera pas accepté par Allah. Même si on passe une nuit dans Haram Sharif à Mecca ou dans la partie du paradis à Al-Madina, meilleure des circonstances, des conditions et meilleur des lieux, si le cœur ne regrette pas sincèrement le péché, les conditions du tawbatun nasuha ne sont pas réunies. Les conditions du repentir sincère ne sont pas réunies parce que l'homme ne regrette pas l'erreur qu'il a accomplie. Donc il n'est pas sincère dans sa demande de pardon à Allah Azza wa Jal. Donc quand on arrive à ce stade, c'est qu'on est parti très loin. Donc pour revenir, il y a cette catégorie de personnes qui fait le petit péché une fois de temps, mais quand il le fait, il comprend que c'est grave et demande pardon à Allah. On pourrait dire que parmi les pécheurs, c'est la meilleure des catégories. Parce que le prophète a dit que kullu bani Adam khata'un, chaque être humain, tout descendant de Adam, c'est-à-dire toute la race humaine accomplit, fait des péchés. Mais parmi ces pécheurs, les meilleurs, ceux qui ont un rang au-dessus, ce sont ceux qui, lorsqu'ils accomplissent ce péché, demandent pardon à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il y a cette catégorie de personnes, bon là on est un peu amorcé, qui accomplit le péché régulièrement, sans remords, sans jamais penser que c'est un péché. Ça c'est la pire des situations. Donc la relation du croyant avec les péchés, on pourrait classifier en trois catégories de personnes. Et cette personne qui sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui a su contrôler son nafs et faire en sorte de ne jamais sombrer d'un péché qui lui est accessible. Un péché que vous n'avez pas besoin de rechercher, un péché qui vous tend la main et qui peut être accompli sans qu'il n'y ait de préjudice ou de retour par rapport à la société, et un péché qui fait partie des plus grandes pulsions de l'homme parce que c'est un péché en rapport avec les relations charnelles. Cette personne, c'est قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Cette personne, c'est un homme qui reçoit les avances d'une belle femme, une femme noble, une grande famille de haute lignée, et cette personne s'éloigne, s'abstient de ce haram, c'est-à-dire de l'adultère, et la seule chose qui l'empêche d'accomplir l'adultère, c'est la crainte d'Allah. Il dit à cette personne, Inni akhafullaha, Rabbal alamin, je crains Allah, le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Et par rapport à cette conviction, cette croyance, cet amour profond qu'il a pour Allah, par rapport à cette crainte qu'il a pour Allah, par rapport à cette conviction qu'il a qu'Allah Rabbul Izzah le voit, Allah Mustawa al Arsh qui est établi sur son trône au-dessus des sept cieux, Allah voit, Allah observe, Allah entend, Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Quand un croyant arrive à développer, parvient à développer une telle relation aussi profonde qui dépasse les prières, qui dépasse le ramadan, qui dépasse la lecture du Coran, qui dépasse le dhikr, qui dépasse l'habit, qui dépasse la barbe, qui dépasse les sunnats du quotidien, quand la relation elle démarre du cœur, une relation où la présence d'Allah est omniprésente, on pourrait dire, la présence d'Allah, elle est là de façon permanente dans le cœur, ça c'est un mu'min. Cette personne-là, on peut dire qu'elle a atteint les plus hauts degrés de foi. Hier, à Saint-Petit, on expliquait le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam donnait ce conseil à la umma, ittaqillaha haythu man kunt, crains Allah où que tu sois, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, on pourrait rajouter, quelles que soient les époques, quelle que soit l'ampleur des fitnas, des péchés, ou l'ampleur de l'appel vers le mal qu'il peut y avoir autour de toi, quel que soit le degré de perversité de la société dans laquelle tu vis, crains Allah en permanence. Que en aucun cas, que ton cœur connaisse une faiblesse dans sa relation avec Allah, et qu'ils finissent par pencher vers le péché. Ça, c'est kamalul iman. C'est ce qu'on appelle al-istiqama. Être ferme, être régulier dans les... Le istiqama, c'est pas uniquement être régulier dans les prières. Certes, ça c'est un point essentiel. Mais istiqama, c'est une relation permanente avec Allah Azza wa Jal. Et tout ça, ça rejoint, quand, là qu'on parle du summum, on atteint la taqwa, le ihsan, le fait que la personne intègre le fait qu'Allah Rabbul Izzah le voit. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam explique le ihsan, question posée par l'ange Jibril, « Wama l'ihsan, an ta'wud Allah ka'annaka tara » Adore Allah comme si que tu vois Allah. Et si tu n'arrives pas à ce stade, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Dans ce cas, intègre le fait, comprends, intériorise le fait et conviction qu'Allah Azza wa Jal t'observe. J'en avais expliqué dans Riyad al-Salihin. La première catégorie, c'est tu fais la bonne action avec la. C'est comme si que tu vois Allah, c'est comme si que tu es devant le trône d'Allah Azza wa Jal. Et donc, tu vas le faire avec dévotion, avec amour. Tu vas t'appliquer dans tes prières, dans tes bonnes œuvres. Et face au péché, tu vas faire de ton mieux pour t'éloigner du péché. C'est-à-dire que c'est ce croyant qui arrive à se projeter immédiatement vers le-delà. Ça, c'est une grande qualité. C'est-à-dire que cette situation sera devant Allah Azza wa Jal. C'est une situation que chaque mu'min va vivre un jour. Le moment du hisab, qu'Allah facilite ce passage devant Allah, ça c'est le grand rendez-vous de la vie du croyant. C'est-à-dire que dans ce dunya, on arrive à se projeter dans cette situation. Et on vit exactement comme si on était devant Allah en train de rendre des comptes. Cette faculté de se projeter vers l'au-delà, c'est une qualité essentielle du croyant. Cette qualité, elle est requise également pour le croyant à travers l'accomplissement de la salat, où il y a un contrôle de son regard, de ce qu'il écoute, de ce qu'il lit, de son gestuel, un contrôle également de ses pensées. On ne doit pas penser à n'importe quoi. C'est un état d'esprit, un contrôle sur soi qu'on doit essayer de s'imposer dans la salat et qu'on doit être capable de transplanter, d'exporter dans notre vie de tous les jours. Faire en sorte que tout le temps, dans ma vie de tous les jours, sur mon lieu de travail, dans les embouteillages, dans le bus, dans la rue, chez le boulanger, au restaurant, à l'école, à l'université, au lycée, quel que soit l'endroit, à la maison, en vacances, je contrôle toujours mon regard. Je contrôle toujours ce que j'écoute. Je contrôle toujours ce que je vais dire. Je contrôle toujours les moindres faits et gestes. Je contrôle également ce que je pense. Vous voyez, ça c'est une tarbiya. C'est une éducation spirituelle qui va amener vers une éducation du corps en entier pour une istislam lillah, une soumission totale à Allah. Et quand le croyant va connaître les textes de l'au-delà, il doit commencer à vivre ces situations depuis ce dunya. Ça c'est al-kayyis, l'homme intelligent. Wa amila lima ba'd al-maut. Il vit pour la vie après la mort. C'est-à-dire, les décisions que je prends, ce sont les décisions en analysant l'au-delà. C'est pas en analysant mon pouvoir d'achat, mon salaire à la fin du mois, ou mes projets dans 2 ans, 3 ans. Non. Ce que je dis, j'analyse cette parole et j'essaie d'analyser l'impact de ma parole avec le akhirah. Ce que je vais prendre comme décision, je vais agir, je fais en sorte que ce que je vais faire, j'ai mesuré l'impact de cette action avec les étapes de l'au-delà. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'homme intelligent. Celui qui travaille, celui qui œuvre pour l'au-delà, c'est-à-dire que dès maintenant, il se projette vers l'au-delà. C'est-à-dire qu'il a, un peu philosophique tout ça, c'est comme si qu'il a fait abstraction de l'espace et du temps. Spatio-temporel, il l'a intégré avec le monde de l'au-delà. Il fait en sorte qu'il vit de ce dunya. Il vit de ce monde, mais son cœur est déjà dans le akhir. Il a la pensée d'Allah en permanence dans son cœur. Il n'est pas ce genre de personne qui va se focaliser sur le temps. J'ai encore 25 ans, j'ai 27 ans, 30 ans, il reste du temps, j'ai le droit de profiter, j'ai un an de mariage, il faut que je enjoy my life, ensuite on verra, ainsi de suite. Voilà, chérie. Ou alors, question, on a dit pour le temps, question d'espace. Là, ça va. Là, je suis dans un endroit où je suis dans la mosquée, donc je respecte. Mais en dehors, je fais ce que je veux. Quand je suis en dehors, ben, il n'y a pas besoin de faire autant de choses. On n'est pas des extrémistes. À la mosquée, je fais mes prières bien comme il le faut. Je suis concentré. Quand je suis dehors, je suis un citoyen. Quand je suis dehors, je suis professeur. Je suis médecin. Je suis éducateur. Je suis menuisier. Je suis garagiste, ce que je veux. Mais c'est mon métier. Et là, il y a d'autres règles. Abadan. L'espace, tout l'espace appartient à Allah. Les mosquées appartiennent à Allah. La terre en entier appartient à Allah. Et notre relation avec Allah ne change pas quel que soit l'endroit. Dans la masjid, certes, on se concentre sur l'ibada, mais en dehors de la mosquée également, il y a un contrôle de soi parce qu'on est soumis à Allah. Parce que tout ça, c'est le mulk, c'est le royaume d'Allah. Et ma vie, c'est une ibada pour Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li liya'budun. Allah nous a créé pour son ibada, pour faire son adoration. Est-ce qu'on s'approche un petit peu du concept? Ça, c'est le concept du mu'min, istislam lillah. C'est le croyant qui est soumis entièrement à Allah. Vous voyez, ce n'est pas une question de 5 prières. Ce n'est pas une question de ramadan. Ce n'est pas une question d'acheter un gros bœuf pour couper pour Kurbani. Ce n'est pas une question de bon, misa hajj et tout, et puis voilà et tout. Ce n'est pas une question de bouger, d'agir, de faire des trucs magnifiques, et puis on revient vers le point de départ, on retourne vers le péché. Là, wallah. Le changement, je ne vais pas dire que le changement c'est maintenant, ça c'est vieux. Le changement, c'est dedans. Ça rime aussi, non? Le changement, c'est dedans. Le changement, c'est créer une relation sincère avec notre Seigneur. C'est ressentir la présence d'Allah dans notre cœur. Et les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, ils excellaient là-dedans. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait travaillé leur foi pendant combien d'années? Au début, 13 ans à Mecca. Et à Madina, il y avait les a'mal, mais il y avait également l'iman. Certains, pas des savants, mais certains, ils simplifient un peu les choses, disent 13 ans c'était iman, 10 ans a'mal. Non, 23 ans c'était iman. Et a'mal, c'était plus concentré sur les 10 dernières années. Le renouvellement de la foi, c'était tout le temps. Hadith Jibril, c'était où? Makkah, Madina. Madina, quand Jibril vient sous l'apparence d'un homme, dit mal islam, mal iman, mal ihsan. C'est quoi l'islam? 5 piliers. C'est quoi la foi? Les 6 branches. Ça, c'est quoi ça? C'est muraja'a. Comme on dit ici, d'or. D'or, que veut dire? Révision. Il dit, révise c'est pas arabe ou talavi. Révise 6 branches de la foi. Que veut dire, révise mon 6 branches de la foi? Quoi a bloqué? Mais les musulmans, on ne parle pas avec un café là. Ils croient en Allah, les anges, les livres, les prophètes, le jugement dernier, les branches de, et le destin. Qu'est-ce qu'ils vont encore? Je ne connais pas encore, j'ai eu de bonnes notes. Hein, à la madrasa, quand j'étais petit, pour ça. C'est bon, j'ai mon diplôme. Là, wallah. Travaille ça, yahi. Travaille ça. Fais des révisions et progresse dans les branches de la foi afin que tu avances, que tu progresses vers ton Seigneur. Et si l'ange Jibril alayhi salam a été envoyé par Allah à l'attention des sahaba, où ça? À Madina, qui était en compagnie de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À une époque où qu'est-ce qui se passait entre les cieux et la terre? La révélation de Kalamullah. Et malgré tous ces facteurs, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas meilleure époque pour vivre. Sa foi. Malgré ça, malgré tous ses atouts, Allah Rabbul Izzah envoie l'ange Gabriel faire un rappel à Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Amir ibn al-Jarrah, tous les sahaba qui étaient là, les top des top, les meilleurs des êtres humains, ils entendent le rappel sur les 6 branches de la foi, sur les 5 piliers de l'islam, sur les ihsan, sur les signes de Qiyama, et ainsi de suite. On a besoin de travailler notre iman intérieur. Aujourd'hui, on se focalise sur ce qui est apparent. Le plus important pour moi, c'est que mon garçon devienne hafiz al-Qur'an. Et on essaie d'avancer nos pions au maximum, que pousser l'enfant, il devienne hafiz al-Qur'an. Quand il lit, pour que ce soit comme ça, il puisse faire tel avis, il fait participer au concours, et ainsi de suite. Mais maintenant, ce qu'il fait le samedi soir, ce qu'il regarde, qui il fréquente, et ainsi de suite, ça, c'est pas mon souci. Ah oui, deuxième point sur lequel on se focalise, c'est sur halal, manger halal. Sans le moindre doute, c'est excellent. Il y a des gens qui sont minutieux. Quand on parle de nourriture halal, c'est avec des microscopes, ils avancent, fait attention et tout et tout. Je dis, ah mais ça m'a calmé là-bas, attention, hein. Ben, n'ayez mangé n'importe quoi, mangez avec légumes. On se focalise, c'est comme si on devient les plus grands muttaqis. Comme si que tous les muftis là-bas, là, ils ne connaissent pas rien, ben, n'a pas à apprendre. On analyse la vie de cette personne, ben, quand il fait son magasin là, ben, il est parti à BNP, il est parti faire un emprunt à 5%. Quand tu vas dans la ville sainte, tu fais attention, je ne critique personne, hein, et Allah seul sait le nombre de défauts que j'ai, et je ne suis pas en droit de critiquer, mais j'aimerais juste qu'il y a des fois où on regarde un petit peu nos réactions, et on comprend qu'il y a des fois où on fait de bonnes choses, hein, on a de bonnes intentions, d'accord? Comme la personne qui va analyser qu'est-ce qu'il mange, c'est excellent, mais on n'oublie pas les autres choses aussi, ce qu'on fait, ce qu'il y a comme acquis, alhamdoulilah, mais on n'oublie pas la base. Cette personne qui va se faire du souci pour sa nourriture ne doit pas oublier que ce genre de muraqaba, ce genre de surveillance, c'est également dans mes investissements, dans mon commerce, comment j'achète mes marchandises, comment je les vends, est-ce que je suis honnête, je suis juste dans mes ventes, est-ce que mon argent est halal, est-ce qu'il n'y a pas d'emprunt, comment est-ce que j'ai monté mon bâtiment, comment est-ce que j'ai acheté ma voiture, comment est-ce que mes enfants s'habillent pour aller à l'école. Si pour moi il n'y a aucun problème à ce que ma fille de 19 ans, 20 ans, elle marche, cheveux au vent, elle se parfume, elle fréquente des garçons, elle sort avec des garçons, elle rentre à la maison, tous les mois c'est un nouveau bonhomme, un nouveau copain, ainsi de suite, ça ne me dérange en aucun cas, il y a un gros problème dans ma foi. Il y a un énorme problème dans ma foi. Et je suis en train de me focaliser sur des points qui sont certes louables, nobles, mais attention, qu'on ne rate pas, qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel. Et Shaitan, il travaille tout ça. Il y a des fois où il nous dévie. Il dit, regarde là-bas, ça c'est très important. Hein. Regarde là-bas ce danger-là qui est à 200 km. Fais attention. Mais le danger est en train de te ronger le cœur. Et tu as complètement oublié. D'où l'importance du ilm, l'importance de la connaissance religieuse pour ne pas passer à côté des priorités. Donc, pas pourquoi on est parti de loin comme ça. Très loin, hein. On parlait donc des priorités, on parlait donc, oui, dans notre société, on a besoin de choses extérieures. Mais wallahi l'azim, on a besoin de travailler ce qui est intérieur. La quatrième catégorie là, ça c'est pas anodin ça. Si cette personne était invitée sous l'ombre du trône d'Allah, ça veut dire que c'est une action qui est mumayyiz, qui est magnifique, qui se distingue. Aimer son prochain Allah. Trouvez-moi 5 personnes dans la masjid ce soir qui aiment son prochain Allah et qui n'hésitent pas à venir en aide à son prochain, à devancer, à essayer d'apporter son soutien physique, moral, financier, à inviter la personne à la maison, à donner à manger, et ainsi de suite. C'est très rare. C'est extrêmement rare. C'est des qualités que les sahaba, eux, ils avaient. Le roi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est arrivé à Madina, il a dit, les muhajirs, les ansars, vous êtes frères. Partagez vos biens. Ça, c'est la plus belle des sociétés, basée sur le tawhid, l'unicité d'Allah, et basée sur les relations humaines. Sincère, lillah. Le muhajir et l'ansar, ils ne se connaissent même pas. Le métier n'a aucun rapport. Le muhajir, c'est quoi son métier? Commerçant, barakallahu fik. Makki, commerçant. Les gens de la Mecque, commerçant. Les gens de Madina, c'est quoi leur métier? Zira'a, l'agriculture. Est-ce qu'ils ont un point commun? Non, le commerçant ne sait pas apprendre comment il fait pousse date et l'agriculteur ne va pas l'expliquer comment on importe de Syrie parce que là tu es plus à Madina, la caravane va venir comme ça. On est... Ils n'ont aucun intérêt commun. Mais ce qui les relie, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Vous voyez, tout ça, c'est le ikhlas, c'est la sincérité, c'est l'ossature de notre foi. Et cette personne, subhanallah, a su atteindre le summum, le paroxysme de foi en s'abstenant, en s'éloignant de ce qui est le plus dur pour un homme. Il n'y a rien, on va conclure, et puis on va développer Inch'Allah par la suite, on conclut en citant cette action magnifique, il n'y a rien de plus difficile pour un homme que de résister aux avances d'une femme. D'autant plus, le hadith est précis et méticuleux s'il y a ces détails qui sont cités, c'est que ce sont là les points qui pourraient faire chuter n'importe quel bonhomme, quelle que soit la grandeur de son âme, hein, quelle que soit l'ancienneté de la religion, quel que soit son nom de famille, reconverti il y a 2 ans ou alors grand famille de moulissab, de moufti, peu importe. Une femme, une jolie femme, une belle femme, ça peut faire chuter le cœur de n'importe quel bonhomme, normalement constitué bien sûr, d'accord ? Si il n'y a pas taqwa Allah, s'il n'y a pas la crainte d'Allah. Et le hadith précise une femme qui est belle, précise également une femme de la haute société. Alors, si on a 5 minutes encore, juste on décrypte le sens du hadith et puis les hikmah, les leçons de sagesse. On ne va pas s'attarder sur ce point-là. Je pense qu'en 3 séances, on peut compléter. On ne veut pas faire comme les autres avant, parce qu'après, je me rends compte qu'on n'avance pas vraiment dans nos objectifs, dans ce qu'on souhaiterait faire. On décrypte le hadith, explication. Deuxièmement, on va faire une comparaison avec l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et troisièmement, leçon de sagesse des tabi'in, des tabi'et tabi'in, des citations concernant l'importance de contrôler son nafs et quelques exemples de vécu, ça j'ai pas vu encore, de la vie. Il y a pas mal d'exemples de biographies des pieux prédécesseurs. Bon, si c'est des choses applicables, on va le voir. Des choses trop complexes, on passe à côté. Mais voilà, on essaie d'étudier cette catégorie de personnes en 3 points, Inch'Allah. Donc, explication du hadith, Rajulun da'at humra'a. C'est-à-dire que la femme l'a invité. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait des avances. C'est pas lui qui va draguer et qui, à la fin, il obtient l'accord de cette femme. Non. C'est que cette personne, cette femme désire cet homme. Et les savants disent qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui est plus perturbant pour un homme que lorsque c'est la femme qui te fait, comment on peut appeler ça? Je ne connais pas le langage de la drague ou tout ça, peut-être Imran ou je sais pas, ou d'autres qui sont un peu plus d'expérience, quand c'est la femme qui fait le premier pas, ou quand c'est une femme qui vous regarde. Il y a une différence entre, si je me trompe, dites-moi, différence entre quelqu'un qui voit une jolie femme et qui tombe amoureux, il y a le coup de foudre comme il dit, et qui va essayer de se rapprocher un peu de la personne et qui l'obtient. C'est-à-dire que là, il est en train de lutter pour avoir ça. Et que la personne est tranquille, il ne fait rien du tout, et il voit une femme, une belle femme, d'accord, et il voit, il constate que la femme est séduite par sa personne. Là, c'est comme si que le cœur il s'écroule et qu'on est prêt à ramper. C'est-à-dire, il y a rien. C'est comme une flèche qui a touché le cœur de l'homme. Quand le premier pas vient de la femme, quand les avances viennent de la femme, là, l'homme il est 100% disponible, il est 100% attentif. C'est comme si que les capteurs sont au top là. Il y a une grande faiblesse chez l'homme quand le premier pas vient de la femme, parce que en même temps. Il va avoir une opinion positive de lui. Il va se dire que, bah, ouais, je suis un mec, je suis bien, je suis beau, je machin, regardez-moi, petit coiffe là, tout ça. Pas trop dégradé, ça m'inspire. D'accord ? C'est-à-dire, il va avoir une excellente opinion de lui également. Donc là, l'homme est en position de faiblesse quand c'est la femme qui a fait le premier pas. Également, bon, ça n'a pas besoin de préciser, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment, ce n'est pas une prostituée. D'accord ? Ce n'est pas une femme, il n'a pas donné de l'argent à cette femme, non. C'est la femme qui elle-même, elle veut, elle désire. Et le fait que ce soit une jolie femme, on a expliqué, il n'y a pas besoin de revenir dessus, ça veut dire que cette personne, qui est, ce monsieur, qui est convoité par cette jeune femme, belle femme et de haute société, ça veut dire que lui aussi, il est jeune et il est beau, il est de la haute société, normalement. On comprend ça. Parce que si c'était un vieux grand moun, il est vieux, il a 90 ans, il ne pense pas que la jeune femme, elle aura de l'attirance pour lui. Si c'est quelqu'un qui est légèrement torde, d'accord, excusez-moi, la personne n'est pas très beau, d'accord, et il a des dents comme ça et tout, astaghfirullah, je ne juge personne. Si la personne n'est pas très beau, ben, cette jolie femme ne va pas lui faire des avances. Si c'est quelqu'un qui n'a aucun rôle vraiment, il est au chômage, il est vraiment à la rue, il est paumé complètement, c'est pas la femme millionnaire, cette jeune fille de 18 ans, issue de telle grande famille et tout, qui va lui faire des avances. Parce que bon, il représente pas grand chose dans la société. Ça veut dire donc que lui aussi, il a énormément d'atouts. Très certainement, c'est un jeune. Très certainement, lui-même, il est beau. Très certainement, lui-même, il fait partie de la bonne société. Et même si ce n'est pas quelqu'un de la société, quel que soit le niveau, que la personne est attirant au moins. Que la personne est beau et attirant. C'est-à-dire que quand il a ses atouts et qu'il reçoit cette proposition ou des propositions de différentes femmes et qu'il arrive à boucler, à classer tout ça, à se refermer sur lui parce qu'il a la crainte d'Allah, il met l'amour et la crainte d'Allah en avant, ça c'est un bonhomme, ça c'est quelqu'un qui a iman. Celui qui ne chute pas face à ce péché, c'est le péché le plus, c'est la pulsion, on va dire, c'est la plus grande faiblesse de l'homme, hein, pour être simple, c'est la plus grande faiblesse de l'homme. Par rapport aux pulsions sexuelles, c'est beaucoup plus lourd que l'appât du gain. C'est beaucoup plus loin que la gourmandise. Par exemple, quelqu'un qui veut manger des trucs, il regarde pas halal, pas halal. On va dire, les shahawat, les pulsions, c'est différents niveaux. Le plus haut degré de pulsion, le plus lourd, le plus préjudiciable, et à propos duquel il y a plus de difficultés à rester ferme, c'est les pulsions sexuelles, le fait de ne pas sombrer dans le zina, de ne pas sombrer dans l'adultère. Et plus on avance dans le temps, plus le fait de résister face à ce péché deviendra de plus en plus difficile. Mais cependant, il ne faut pas se dire que comme on est à une époque où le prophète ça m'avait annoncé, il y a une époque où les femmes s'habilleront de telle façon et ainsi de suite, comme des femmes nues qui marchent et tout, c'est des choses que nous voyons en Amsterdam. Il ne faut pas se dire que comme on vit cette époque, ben, il est normal qu'on a du mal à résister. Donc si on a péché, ce péché, le zina au 21e siècle est moins grave que le zina à l'époque de la prophétie ou à l'époque de Tabi'in. Abadan. Et la plus belle preuve, c'est justement... Et là, on voit, subhanallah, comment Allah Rabbul Izzah est hakim. Allah connaît l'homme. Quand Allah interdit le zina, c'est le discours, ça. C'est le texte. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisha. Maintenant, comment est-ce qu'on applique cette thèse? L'être humain, et Allah a créé l'homme, Allah sait comment l'homme fonctionne. L'homme ne peut pas fonctionner uniquement sur le discours. L'homme a besoin du modèle, du qudwa. Il y a le tarbiya, l'éducation par le discours, et il y a le tarbiya bil qudwa. Et le qudwa, l'exemple dans l'éloignement de l'adultère, le fait de se contrôler, de contrôler son nafs face à l'adultère, notre exemple c'est qui? C'est Yusuf alayhi salam, le prophète, un jeune prophète d'une grande beauté qui reçoit les avances d'une femme de la haute société qui est elle-même une grande beauté et qui arrive à résister, à dire non pour Allah Azza wa Jal. Donc notre modèle c'est Yusuf alayhi salam. Donc quand on dit que Da'at humra'atun, c'est-à-dire il reçoit des avances, c'est pour l'adultère, c'est pas pour autre chose, qu'on comprend bien, c'est cette femme fait des avances pour avoir une relation haram, une relation intime avec lui. Et là, la réponse de ce jeune homme, c'est inni akhafullah, il le dit avec, il le pense avec son cœur, il a la crainte d'Allah de son cœur, et cette crainte d'Allah qui est dans le cœur va se manifester à travers al-jawarih, à travers les membres. De quelle façon que sa langue sera capable de dire à cette femme « Non, je n'accepte pas la proposition parce que je suis mu'min. Je crois en Allah et je crains mon Seigneur. Je crains les conséquences de ce péché pour moi, le jour des comptes. » Et en commentaire, les muhaddithin, l'imam Qurtubi, rahimahullah, dit « Innama yasdur dhalika an shiddati khawfin min Allah ta'ala » C'est-à-dire que ce genre de réaction, quand quelqu'un est capable de refuser ce péché qui te tend la main, c'est que vraiment cette personne a atteint le summum en termes d'amour et de crainte d'Allah, en termes de taqwa, de piété et de haya et de honte devant Allah. Et quand on a honte de notre Seigneur, c'est qu'on a pris conscience qu'Allah nous voit. C'est quand on sait, quand est-ce qu'on a honte de quelqu'un, c'est quand on sait que la personne, soit elle te voit directement, ou alors on va lui rapporter ce que tu as fait, donc tu éprouves de la honte. Et l'homme qui a honte de son Seigneur, de désobéir à son Seigneur, c'est celui qui sait qu'Allah le voit, et qui sait que les anges vont bientôt rapporter également, en plus de qu'Allah nous voit, les anges vont rapporter à Allah ce qu'on était en train de faire, les anges qui inscrivent les actions, mais également les anges qui font la navette matin et soir pour, et qui remontent aux cieux pour raconter à Allah ce qu'ils ont vu sur ce dunya. Également, ce qui fait la perfection de cette personne, c'est que les ulama disent que quand cette femme invite cet homme vers l'adultère, il dit que théoriquement, les conditions de l'adultère sont réunies. Et une des conditions essentielles, c'est qu'il n'y ait pas d'impact, ce qu'on disait en introduction, c'est que ce péché est accessible, il vous tend la main parce que c'est elle qui vous demande, et deuxièmement, il n'y a aucune conséquence par rapport à la société. C'est que si cette femme invite cet homme, c'est que ça se passera dans un endroit où personne ne les verra. Ce n'est pas un endroit où les gens ils vont être témoins, où ils vont savoir et que ta femme va savoir, tes parents, la société, où il y aura des soucis, et c'est par rapport à ça que tu dis non. Ah non, ça va pas en plein centre-ville Saint-Denis, tu peux pas venir me parler. C'est une jeune femme, il vient, ou là en face, t'en as acheté bonbon de pain, je tiens, sans faire la pub. Une jolie femme, excusez-moi, j'allais donner une description, je sais pas, après chacun a sa conception de la beauté, elle est comme ça, elle est comme ça. Il me voit, il dit, can I kiss you? Je peux vous embrasser tout de suite. Il me dit que devant la mosquée, tout ça, Mouissab est là, Nanata, tous ces arabes là, jamais! Et il se dit que si seulement il y avait des moments dans un parking Carrefour ou Jumbo ou alors je ne sais pas dans quel endroit, quand le parti fait Montmartre, Colorado ou alors Piton des Neiges, dans un gîte tranquille, là ça aurait été. C'est parti. D'accord? Bien que je te fasse rêver. Mais là non. Là parce que il y a des gens. On n'est pas de cette circonstance. Parce que celui qui refuse de pécher par rapport au regard des gens, est-ce que c'est de la taqwa ça? Non. Pourquoi c'est pas de la taqwa? Parce que si les circonstances étaient réunies, la personne aurait fait le péché. Intérieurement, il sait qu'il l'aurait fait. Autre exemple, je suis en voyage. Je vais en, je ne sais pas où ça, dans quel pays, en Thaïlande, ou je ne sais pas, la grande destination de beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi c'est là-bas. Ils vont là-bas. Et là-bas, la personne se sent libre. Na'oudhou billah. Libre de quoi? Libre du regard des gens. Il n'y a pas Prawala, il n'y a pas Mentikala, il regarde voir le balcon, il dit, ça, l'enfant qui ça, hein, il connaît son moment et tout, il a grandi, il partit l'école ensemble. Il n'y a pas tout ça. Donc, tu es un étranger, tu es dans un pays où personne ne te connaît. Personne ne parle ta langue, personne ne se soucie de ce que tu vas faire, bien comme mal, c'est ton problème. Et du coup, il y a des gens, quand ils sont en vacances, quand ils sont en voyage, ils se sentent libres. Du coup, c'est comme si que l'adultère devient autorisé, boire de l'alcool devient autorisé. Wallah musta'an. Ça, c'est une preuve évidente de l'absence de iman solide dans le cœur. C'est un iman superficiel. C'est comme un petit iman en cristal. Tu cognes, ça craque. Il n'y a pas de fond. C'est pas solide. C'est pas un iman qui te permettra d'affronter Dajjal. Attention, hein. Attention. Si une femme te fait chuter, que dire de Al-Masih al-Dajjal? Que dire des grands fitnas à la fin des temps? Quand le Prophète me dit, n'allez pas voir, parce que des gens, ils vont croire qu'ils sont croyants, arrivent devant Dajjal, ils vont voir des choses, ils vont perdre iman, ils vont le suivre, ils vont devenir kafir billah. Il a fait hajj, il a fait umrah, il est hafid al-Quran, peut-être, il connaît telle chose, il voit Dajjal, il le suit, il dit, tu es mon Seigneur, je te suis, na'oudou billah. Le Prophète me dit, attention, n'y allez pas, précaution, parce qu'il y aura des gens à la fin des temps qui auront la foi très faible. Les ulama disent, si le Prophète sallam essaie de protéger sa umma par rapport à ce grand fitna, et que nous voyons que déjà on craquelle face aux petits péchés, que dire des grands fitna? Donc, quand cette femme fait cette invitation, fait ses avances, c'est que les conditions sont réunies. Discrétion, aucune conséquence, personne ne le saura. On verra que pour Youssouf alayhi salam, c'est les mêmes conditions. Parce que Youssouf, il est étranger. Personne ne le connaît là où il est, donc aucune conséquence par rapport à ses proches, sa famille, l'honneur, ainsi de suite, rien du tout. D'accord? Donc, hada. Et, conclusion, ce genre de personne, c'est une magnifique citation, je ne sais pas qui l'a cité, mais c'est l'auteur même. Ce genre de personnes, ceux qui arrivent à dire non face à ce genre de péché, par amour et par crainte d'Allah, pas parce qu'il y a des gens qui vont le voir, non, uniquement par sa piété, ce genre de personnes, Allah Rabbul Izza a protégé leur cœur. Ce genre de personnes, وَيُبَصِّرُهُمْ عَوَاقِبَ أُمُورِهِمْ, Allah les a fait voir les réalités de l'au-delà. C'est-à-dire que la personne arrive, et on va expliquer ça la prochaine fois, c'est un point important. La personne arrive à faire la relation directe entre ses paroles, entre ses actes, entre ses prises de position, ses décisions et les conséquences du jour de l'au-delà, le jour de Qiyama. فَيَعْصِمُهُمْ مِنْ ذِلَّةِ الشَّيْطَانِ. Donc Allah protège ces gens contre l'humiliation du diable qui souhaiterait le voir chuter dans le péché. Qu'Allah Rabbul Izzan donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, et que les qualités, on n'a pas encore bien développé, mais on a vu juste les qualités de cet homme qui sera sous l'ombre du trône d'Allah, que ces qualités deviennent mes qualités à moi. On avait dit que c'était un jeune, ça peut être quelqu'un de 40 ans, 50 ans, hein, qui reçoit les avances d'une femme, c'est possible aussi, mais même dans ces circonstances, même si la personne n'est pas tout jeune, il arrive à dire non. Ça ne concerne pas uniquement les jeunes, pour reprendre ce que j'ai dit, ça peut être quelqu'un de plus âgé qui reçoit des avances, peut-être aussi que c'est quelqu'un de très riche. Il n'est peut-être pas beau, il n'est pas très jeune, mais il est immensément riche. Et donc, une femme le convoite par rapport à sa richesse. Mais en finalité, il a à la clé un adultère, un zina qui est accessible, alors que son physique ne lui permet pas d'avoir ça en temps normal. Mais par rapport à sa richesse, il peut l'avoir. Et malgré ça, il refuse par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Rabbul Azza nous accorde cette qualité. Et cette qualité-là, ce n'est pas uniquement par rapport au zina, c'est par rapport à n'importe quel péché on doit essayer de développer. Mais celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, c'est celui qui vit ce fitna, cette épreuve. Le péché est une épreuve qui est testée par Allah par ce péché et qui sait répondre présent et qui sait mettre son iman en avant et son amour pour Allah Rabbul Izzah avant ses pulsions. Qu'Allah nous accorde ses qualités. Tawfiq illa billah. Inch'Allah, bon, semaine prochaine, ce sera centre-ville, mardi prochain, ce sera la clôture des grands signes de Qiyam. C'est un événement qu'on avait fait ici à Montreuil il y a 12 ans à peu près, on l'avait complété. Donc là, on va compléter au centre-ville. Après, on va commencer autre chose, un autre programme, Inch'Allah. Et le mardi d'ensuite, donc, on va continuer avec ce chapitre. Inch'Allah, wa tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.